Bonjour Thierry Mandon.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui, une rentrée un peu particulière cette année en raison de la menace terroriste. Comment le gouvernement compte sécuriser les établissements scolaires ?
Tout l'été, il y a eu un travail extrêmement important qui a été mené tant au niveau national entre la ministre de l'Éducation, Mme Belkacem, le ministre de l'Intérieur, qu'au niveau territorial, organisé par les différents préfets, pour sécuriser les abords des écoles. Donc il y aura des forces de police et de sécurité qui patrouilleront autour des écoles. À ça s'ajoutent des consignes très précises qui ont été données aux enseignants sur la façon et aux directions d'école, sur la façon de se comporter en cas de crainte, de risque. Il y a même des formations, il y a des guides précis qui ont été donnés. Bref, je crois que les mesures de sécurité ont été prises extrêmement sérieuses, ce qui est d'ailleurs bien normal.
C'est une rentrée marquée aussi par la réforme du collège. Les syndicats n'ont pas digéré la mise en place des nouveaux programmes. Je rappelle rapidement, apprentissage d'une deuxième langue vivante à partir de la cinquième, restructuration du brevet des collèges, généralisation des travaux interdisciplinaires. Le SNES-FSU appelle d'ailleurs à la grève le 8 septembre. Est-ce que le gouvernement est allé trop vite en besogne ?
Alors d'abord, il faut rappeler que c'est pas une décision, c'est pas une foucade gouvernementale ou ministérielle. C'est la réforme est le résultat d'un travail très long, de plus d'une année, d'une commission d'experts en pédagogie. Et quand on regarde ce qui se passe au plan international, elle est plutôt dans les standards actuels sur deux points. Premièrement, beaucoup plus d'interdisciplinarité, des enseignements qui hybrident, qui mélangent un certain nombre de disciplines pour que très jeunes, les enfants apprennent à faire des synthèses et en même temps à avoir des contenus un peu plus riches que des contenus très très verticaux, très très pédagogiques classiques. Et puis deuxièmement, plus d'autonomie pour les établissements pour qu'ils s'adaptent au public qu'ils ont selon les régions, les territoires, les milieux sociaux. 20% du temps est laissé à la libre, entre guillemets, organisation des établissements. Et c'est deux très gros progrès qui sont réclamés d'ailleurs par tous les classements internationaux. C'est vrai que ça change les habitudes. Beaucoup les habitudes. Et c'est ça les craintes des professeurs. Je pense qu'il faut dédramatiser tout ça. Ça va se mettre progressivement en place dès cette année. Et puis, il y aura une montée en régime dans les années qui viennent. J'ai plutôt le sentiment que ça se passera bien à la fin.
Pour les étudiants aussi, c'est bientôt la rentrée. Une rentrée toujours plus chère selon les syndicats étudiants. La Confédération syndicale des familles dit même que poursuivre ses études est un luxe. Alors, est-ce qu'il faut être riche pour faire des études supérieures en France ?
Oui, là, je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. Il y a des étudiants qui ont des difficultés financières. C'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 5 ans, on a augmenté considérablement tant le montant des bourses que le niveau des bourses, des augmentations supérieures aux hausses du coût de la vie. C'est pour ça qu'on a créé 40 000 logements. Pour l'instant, il y en a 27 000 qui sont livrés pour les étudiants. Enfin, il y a des efforts sociaux qui sont faits et on n'est pas du tout dans la situation des autres pays européens ou mondiaux qui font payer très cher des études qui restent très, très abordables en France. 186 euros le droit d'inscription en licence à l'université. J'observe par ailleurs qu'un des débats des mois qui viennent, ça va être justement les droits d'inscription dans les universités. Nous pensons, nous, qu'ils doivent rester très accessibles. Mais un certain nombre de futurs candidats à la présidentielle se positionnent déjà sur des augmentations assez significatives des droits d'inscription. Donc les risques sont plutôt devant nous que la réalité d'aujourd'hui. Mais par ailleurs, le vrai défi pour la rentrée universitaire, c'est le défi du nombre. Les universités françaises continuent à avoir beaucoup de succès, tant mieux, parce qu'il faut élever le niveau de qualification des jeunes. Mais cette année, on va avoir 3% d'effectifs supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et donc, ça demande des efforts pour accueillir dans les bonnes conditions, pour assurer la qualité des études. C'est ça qui nous préoccupe le plus.
Alors, pour la rentrée, pour le gouvernement aussi, c'est la rentrée. Vous étiez hier au Conseil des ministres, le premier sans Emmanuel Macron. C'était comment l'ambiance hier à l'Élysée ?
Écoutez, voilà, la vie continue. Hein. C'est pas un être vivant qui est tout est dépeuplé. Hein. On continue l'action pour le gouvernement. Monsieur Macron a choisi sa voie. Voilà.
Que disent les ministres ? C'est plus clair comme ça ? Ou alors il va nous manquer quand même ?
Non, mais c'est un tout petit peu surprenant quand même cette démarche. C'est une démarche qui finalement emprunte beaucoup à la vie économique, aussi paradoxal que ça puisse paraître. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même parle de bâtir une offre politique nouvelle, comme si c'était la théorie de l'offre. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'on appelle en économie une spin-off. Il va créer son entreprise. Il quitte un grand groupe, le gouvernement, le Parti Socialiste, même s'il n'était pas membre, enfin la famille, disons, pour aller créer son entreprise. Voilà. Généralement, quand on fait ça, il y a une clause de non-concurrence dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on crée son entreprise, on y est même parfois aidé par les grands groupes, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc on verra si il s'est assigné à lui-même une clause de non-concurrence.
À votre avis, c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette démission, pour François Hollande ?
Je suis pas sûr que c'est ce que souhaitait François Hollande. Voilà. Mais en même temps, dans la vie politique, il y a des choses que vous décidez, que vous mettez en œuvre, puis il y a des choses que vous constatez et avec lesquelles vous devez faire, c'est ce qu'il fait.
Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Cécile Duflot, trois anciens ministres de François Hollande qui se portent candidats à la présidentielle, peut-être un quatrième si Emmanuel Macron se lance. François Hollande a-t-il encore la légitimité de se présenter pour 2017 ?
Ah oui, le président sortant a forcément, naturellement, je dirais, la légitimité pour se présenter. Il est président sortant, c'est tout à fait normal qu'il ait envie de rendre compte de ce qu'il a fait, éventuellement de dire mon deuxième quinquennat, soit je prolonge ce que j'ai fait, soit je prolonge mais j'infléchis sur tel ou tel domaine. Donc il a tout à fait la légitimité. Il va s'interroger. Le problème qu'il a, c'est un problème d'opinion publique et c'est un problème de résultat qui commence sur le plan du chômage mais qui mérite d'être conforté. Donc sa décision sera prise en fin d'année.
Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'il se décide rapidement ? Pour éclaircir la situation à gauche ?
Non, moi je pense qu'il ne faut pas précipiter les échéances. D'abord, il y a des primaires. Il y a des primaires à droite, il y aura des primaires à gauche. Le calendrier est fixé, il faut qu'il reste sur les calendriers politiques. Et surtout, il faut surtout qu'on reste concentré là, sur les 4 mois qui viennent. Parce qu'il y a encore quelques chantiers de réforme. Moi, je vois dans mon domaine, il y en a beaucoup à transcrire dans la réalité. Il faut transformer l'essai sur le plan du chômage et de la reprise économique. Enfin, je veux dire, il faut être aux commandes du bateau France. Voilà. Et puis ensuite, avec la nouvelle année, viendra le temps de l'explication politique bien, bien légitime et démocratique bien légitime. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment rester concentré pour l'instant.
Vous êtes rendu à l'université d'été du MEDEF sur le campus d'HEC. Vous étiez l'un des rares représentants du gouvernement et de la gauche. Elle est finie, la lune de miel initiée par Manuel Valls et Emmanuel Macron avec les chefs d'entreprise ?
Est-ce que c'était une ligne de miel ? Enfin, il y a eu des.
On a eu des déclarations.
Oui,
j'aime l'entreprise.
Non, mais vous avez raison.
Il y a eu des aides pour les entreprises.
Il y a eu une tentative d'un dialogue adulte avec le monde patronal, entre le gouvernement et le monde patronal. C'est appuyé sur des faits. C'est pas seulement pour être sympathique. C'est les efforts incroyables qu'on aura fait dans ce quinquennat pour restaurer la compétitivité des entreprises. Je dis bien incroyable. Jamais ça a été fait, pacte de compétitivité, différentes réformes, 50 milliards pratiquement transférés aux entreprises, pris de fait des poches du contribuable vers les entreprises. Bon, donc, on s'est dit, là, on doit pouvoir dialoguer plus sereinement. Le bilan de tout ça est quand même très mitigé. On a un peu le sentiment qu'on paye toujours et qu'on n'est pas souvent payé en retour. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une fin de lune de miel, je ne le crois pas. Ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas s'enfermer dans des revendications permanentes vis-à-vis du gouvernement. Je pense que nos entreprises françaises, nos patronats doivent inventer à notre patronat un nouveau modèle social, donc de dialogue avec les partenaires sociaux, tels qu'ils sont. Voilà. Il y en a plusieurs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des progrès à faire.
Une dernière question, Thierry Mandon. Les arbitrages du budget sont toujours en cours. Au début de l'été, le ministre du budget annonçait une hausse de 3 milliards pour l'éducation. Cette augmentation est définitive ?
Oui, elle est définitive. Il se trouve qu'il y a un Parlement en France et que c'est lui qui va voter. Mais enfin, quand on viendra au Parlement, il y aura bien une progression très forte du budget de l'enseignement et de l'enseignement supérieur, enfin de l'éducation et de l'enseignement supérieur, 3 milliards. Et là-dedans, il y a presque 1 milliard, enfin 850 millions. Pour l'enseignement supérieur et pour la recherche, c'est-à-dire la plus forte progression de ce budget depuis 10 ans. Mon sentiment, c'est que non seulement il faut que ce soit consolidé dans la discussion budgétaire, mais je pense qu'il faut inscrire cet effort très important pour la recherche et pour l'université dans un plan pluriannuel, donc sur plusieurs années, pour rattraper les meilleurs pays au niveau mondial.
Merci Thierry Mandon.